ce soir et savoir donc de quelle manière l'expérience psychanalytique est susceptible ou pas de contribuer au travail des sociologues, des philosophes, des politologues sur la question du pouvoir. Question qui se pose donc pour nous aujourd'hui à un moment où le citoyen se trouve exposé à des forces et à des développements économiques sur lesquels, semble-t-il, il a très peu de prise, bien que ces forces, une fois encore, viennent décider de son destin. La question, donc, qui est pour nous à l'ordre du jour, ne manque pas d'une actualité, une actualité qui pourrait commencer de la façon suivante, pour être comme ça dans la proximité, il faut toujours parler dans la proximité. Nous, qu'est-ce qui fait que ce soir, quel est le pouvoir qui a décidé que nous sommes là ensemble ? Sans doute s'agit-il du partage d'un pacte, le pacte qui se résume, bien entendu, à, ici en tout cas, à celui de la parole, mais où nous sommes à cette occasion sûrement les uns et les autres dans l'attente de la production d'un savoir. Disons donc que le pouvoir qui nous réunit ce soir serait celui de la production éventuelle. On ne sait jamais, de la production éventuelle d'un savoir. Et cela, bien que nous soyons tous à peu près avertis du fait que de savoir, il n'y en a jamais que d'approcher, voire de rater. Savoir approcher, y compris bien entendu celui dont on nous rabat les oreilles, c'est-à-dire le savoir scientifique, qui n'est jamais lui aussi qu'un savoir approché. Autrement dit, nous sommes là réunis dans l'attente de la production d'un savoir, tout en sachant donc qu'il n'y a pas de, bien sûr, de savoir absolu. Et c'est donc cependant cette exposition à une insatisfaction préalable, préliminaire, qui néanmoins nous régit. Cette insatisfaction qui entretient donc notre désir de savoir. On pourrait donc dire que ce soir, le pouvoir qui nous rassemble est l'attente, dans le meilleur des cas, d'une satisfaction sur le fond d'une insatisfaction fondatrice. Si jamais il y avait quelque savoir terminal, et bien sûr que ça se saurait et que nous serions ailleurs. Autrement dit, que ce qui nous réunit, c'est très clairement, très simplement, un trou dans le savoir, avec, vous vous en doutez, la conséquence qui en viendrait rapidement, autrement dit, le pouvoir qui s'exercerait sur nous, et qui à cette occasion nous rassemble, son lieu d'origine, son lieu d'émission, son lieu d'exercice, serait celui d'un trou dans le savoir, puisque c'est bien ce qui nous fait venir. C'est bien ce qui nous met en attente. Sur cette formule, je dirais, une objection vient immédiatement pour nous dire que tout ça, peut-être, mais en tout cas, qu'il reste, bien sûr, dans l'élaboration de ce savoir foncièrement insatisfaisant, un progrès possible. Un progrès possible, par exemple, celui qui, approché, viendrait cerner le trou dont le savoir, du même coup, est animé. Autrement dit, que ce savoir insatisfaisant pourrait néanmoins avoir des effets pratiques, et en particulier eu égard justement à ce savoir dont le domicile serait ce trou. Mais vous le voyez, il y a là une spéculation qui est un peu trop facile et qui serait celle de dire cela voudrait dire que vous pourriez exercer quelque maîtrise sur le pouvoir qui s'exerce depuis ce trou, mais d'où viendrait cette maîtrise? D'où pourriez-vous la tenir? Alors peut-être est-il possible ici d'introduire un élément qui n'est pas coutumier d'introduire, une référence qui est sûrement, je pense, originale, et qui est de dire que ce savoir, donc, peut être possible, ne pourrait sûrement pas venir promettre quelque maîtrise de ce lieu d'où s'exerce le pouvoir, on ne voit pas au nom de quoi, de qui, comment, mais il pourrait peut-être nous amener à le traiter différemment, avoir un autre rapport avec lui, qu'il soit révolutionnaire ou peut-être respectueux. Ça reste évidemment à... Peut-être qu'ailleurs, que le savoir révolutionnaire serait à cet égard la façon la plus respectueuse de l'aborder. Mais en tout cas, ce qu'il y a, je pense, de surprenant dans ce que je vais tout de suite proposer à votre attention, c'est que si ce lieu que j'évoque, et d'où émane donc ce qui fait pouvoir pour nous et qui s'avère généralisable, bien entendu, au-delà de notre petite réunion de ce soir. Si ce lieu n'est pas maîtrisable, il est néanmoins, il s'avère manipulable par une écriture. Et je pense que c'est là une dimension qui n'est pas usuelle de faire intervenir dans un tel abord, avec la considération immédiate, je dirais, qui vient, et que, après tout, il n'y a rien dans notre monde physique qui ne soit régi par une écriture. Non pas que cette écriture soit au préalable inscrite dans notre monde, bien sûr que non. Dieu ne s'est pas amusé à écrire sur son tableau noir les formules mathématiques pour rendre compte de la gravitation. Mais néanmoins, il s'avère que notre monde physique, celui sur lequel nous prenons quelques pouvoirs, grâce justement à des écritures qui s'avèrent déterminantes et évidemment... elle-même modifiable. Et on se bat, bien sûr, entre spécialistes sur ces éventuelles modifications. Ce qui est, je dirais, singulier, étrange, c'est de constater que, finalement, dans la cure analytique, on retrouve ce pouvoir de maîtrise d'une écriture, puisque l'inconscient, c'est une écriture. Type d'écriture qui nous échappe, ordinairement, qui ne se fait lire, alors qu'on croit l'entendre, qui se fait lire, je dirais, par quelques discrets lapsus, tellement mince, tellement minime, tellement réduit dans son aspect phénoménologique, et cependant porteur de ce qui, d'un seul coup, peut dévoiler à un propre, à un sujet, sa propre vérité, portée par rien d'autre que ce petit supplément d'écriture que propose le lapsus. Le phénomène qui nous est beaucoup plus familier que celui que je prends là pour aborder cette question, le phénomène qui, plutôt qu'une modification d'écriture, tente, je dirais, une transformation de cette écriture, de l'écriture de ce trou, c'est la religion. C'est la religion qui, contrairement à la crainte que j'évoquais plus tôt, voire l'impossibilité d'une maîtrise de ce trou, en réalise une appropriation, puisqu'elle en fait le domicile de cette instance une, désormais décideuse de notre organisation. Elle se soutient de ce coup de force qui consiste à venir inscrire dans ce trou, dont jusque-là je n'ai évoqué les éventuels éléments qui pouvaient l'occuper que par exemple lapsus qui peut en surgir pour venir soutenir, dire la vérité du désir du sujet. Elle, la religion, procède par l'inscription dans ce trou, donc, de ce trait 1, support de la divinité. Elle fait de ce trou son domicile. Elle en fait du même coup le support d'un savoir, puisque c'est lui désormais qui va être le référent, je dirais, obligé de nos conduites, de nos vocations, de notre choix du bien et du mal, de notre activité sexuelle, voire de notre pensée qui peut difficilement se dispenser d'un référent maître. Pensée qui peut difficilement s'autoriser d'elle-même. Pas oublier que le « je pense » cartésien ne s'autorise lui-même que de sa référence, de son support par Dieu. Une objection que j'entends chez vous, bien sûr, c'est pourquoi, après tout, ce que je parle d'une inscription dans le réel, une inscription dans ce trou, pourquoi ne s'agirait-il pas d'une construction purement imaginaire, une illusion, comme s'exprime Freud à propos de la religion, l'avenir d'une illusion, voire un fantasme, un espoir, puis ça ne reste jamais qu'une croyance. Qu'est-ce donc qui permet de parler d'inscription, d'écriture? Peut-être cette remarque que cette présence du Un divin, réputé divin, et qui désormais fait pouvoir, fait autorité, fait référence dans ce trou, a évidemment ses conséquences dans le champ de l'imaginaire, puisque dans ce qui devient dès lors un monde de représentation, j'y prends place au titre d'une silhouette qui est réputée ne devoir sa présence justement qu'au pouvoir créateur de ce un. Vous savez, là encore, puisque je citais Descartes, cette histoire des porte-manteaux qui se baladent dans la rue, et qu'est-ce qui, après tout, leur insuffle quelque âme, si ce n'est justement référence à leur créateur. Ceci donc pour le champ de l'imaginaire, mais je pourrais en dire tout autant comme effet, je dirais, dans le champ du symbolique, puisque du fait de cette inscription divine, eh bien, je bénéficie d'un accès au bon sens. Au bon sens, c'est-à-dire à la jouissance, puisque c'est la première des prescriptions divines, et il est clair que le rôle érogène de la religion n'est plus à démontrer. Un effet qui nous intéresse peut-être encore plus immédiatement que ces considérations, après tout générales, à l'exception de ce que j'évoque comme support par l'écriture, considération plutôt générale, sauf que cette instance, une, va se trouver par un effet parfaitement nouveau, original, de pure création dans le monde antique, va se trouver à l'intersection du privé et du social. Autrement dit, le rapport à l'idéal que le sujet va dès lors être en mesure de mesurer, d'éprouver, va se faire à l'égard d'une instance qui est exactement la même que celle qui ordonne ce qu'il appelle son environnement. Et donc, cette conjonction, en quelque sorte, cette prise du sujet et de l'environnement par la référence à une autorité unique, puisqu'il est bien évident et vérifié que cet environnement a été aménagé pour lui par la même autorité. Cette intersection entre le privé et le social a des conséquences évidemment intéressantes, mais qui n'est pas utile de développer sur ce point. En tout cas, c'est assurément, je dirais, à la suite de cette opération, que l'empereur du moment, qui était donc Constantin, il a fallu quelques siècles pour ça, pour s'en apercevoir, a bien perçu que l'autorité politique ne se soutiendrait jamais aussi bien que si elle était déléguée, représentante de cette autorité divine. C'est pas compliqué, évidemment. et que donc s'engageait une vie politique, une vie citoyenne, tout à fait neuve. Excursion dans l'actualité, je lisais avec surprise que ce pays dont on parle fort aujourd'hui, c'est-à-dire l'Ukraine, eh bien connaît une division de ses églises, puisque la partie occidentale, celle de Kiev, relève de l'église uniate, qui dépend de Rome, et alors que la partie orientale relève de l'église orthodoxe, c'est-à-dire du patriarcat de Moscou. Je veux dire que rencontrer des phénomènes d'une telle crudité, je dirais, peut continuer évidemment d'émouvoir et d'inciter à pousser notre réflexion sur finalement ce qui fait pouvoir donc pour nous. Je n'ai pas besoin de développer, je le signale qu'au passage, évidemment, que cette autorité non seulement ne met pas en cause la division habituelle du groupe social en maître et serviteur, mais elle vient en quelque sorte la justifier, lui donner son référent moral, y compris bien entendu le fait de faire maintenant du service, justement, une tâche morale. C'est, je dirais, je vais extrêmement vite, mais pour justement essayer d'en venir à ce qui serait les paradoxes de l'exercice du pouvoir aujourd'hui, c'est en tout cas, me semble-t-il, dans ce contexte que, au XVIIIe siècle, une révolution, la révolution du machinisme, est venue introduire un mode tout nouveau d'enrichissement. Et donc de pouvoir qui, dès lors, pouvait ne plus relever de la naissance, être transmis par la naissance, mais, je dirais, être susceptible de relever de l'entreprise individuelle et de la capacité de l'entreprise individuelle. Et donc, on ne veut pas dire seulement du talent, mais du goût, assurément, de chacun quant à la place qu'il entend tenir dans le fonctionnement social. Je ne vais pas reprendre ici le bateau qui consiste à montrer de quelle façon le protestantisme, c'est-à-dire là encore, je dirais l'esprit de libre entreprise dans la lecture des textes sacrés a pu venir heureusement coïncidé avec l'esprit de la libre entreprise, ça a été très bien fait par d'autres, il se trouve que ça a très bien fonctionné, et de telle sorte que esprit de libre entreprise plus esprit de libre entreprise, nous en venons au rétablissement de la démocratie antique, bien oubliée, bien perdue, mais qui, dans sa résurgence, prend un aspect dont j'espère que la définition que je vais vous en donner ne va pas manquer de vous choquer. Mais je ne voudrais pas qu'elle vous fasse croire que je serais le partisan de quelque régime plus expéditif. La démocratie, c'est-à-dire comme liberté donnée à chacun d'exploiter son prochain. Point de vue économique, c'est ça quand même. Et c'est bien pour ça que la remarque a été faite par d'autres, pourquoi Sade est un précurseur. Toujours dans mes fâcheuses lectures, je découvrais, mais vous l'avez sans doute trouvé aussi, de quelle façon, il y a quelques jours, le Premier ministre Xi Jinping, à l'occasion d'un long discours très important pour notre avenir, Premier ministre Xi Jinping est venu vanter pour assurer le développement de l'économie chinoise la main invisible qui allait désormais la commander, c'est-à-dire non plus le plan, avec tous ces technocrates, bureaucrates, statisticiens, enfin bref, tout ce que l'on sait, mais la main invisible. Voilà que Adam Smith devient l'auteur de référence du Premier ministre Xi Jinping. C'est quoi la main invisible ? Main invisible, c'est que le fonctionnement de l'économie n'est pas régi par d'autres plans que celui de l'offre et de la demande. C'est ce qui vient réguler, je dirais, la production, son renouvellement, la disparition de produits obsolètes, développement d'un bien-être matériel. La loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire donc d'une demande dont il n'y a, comme nous le savons, aucune raison pour qu'elle se trouve quelques limites. C'est ce qui spécifie une demande. Une demande est par nature inextinguible. Et la satiété n'est jamais que limitée à l'heure de la sieste. Et donc expose à la loi de l'offre, qui elle appelle bien entendu un développement également sans fin de l'économie. Ce qu'il y a de nouveau là dans ce qui fait pouvoir, je veux dire la présence, l'émergence de cette main invisible, à la place, je dirais, de ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire de cette instance une inscrite dans ce trou du réel, ce qui vient en quelque sorte, cette main invisible, vient en quelque sorte casser, briser ce qui était l'une des lois morales garanties par cette instance, bien qu'elle ait été, je ne dirais pas qu'elle ait été reprise de la philosophie antique, c'est pas vrai. Mais en tout cas, elle était familière aux hommes de l'Antiquité, cette règle qui était celle de la tempérance. que j'ai souvent la faiblesse d'évoquer. Habituellement, je la cite en grec, mais ce n'est pas nécessaire. Autrement dit, cette main invisible vient défaire là, dans ce domicile que j'évoquais tout à l'heure, cette instance dont j'ai bien situé de quelle manière elle venait donner sa justification morale à la division entre maître et serviteur, entre maître et esclave, la division sociale propre à nos sociétés, mais qu'elle venait également en briser, je dirais, cette règle morale majeure, caractéristique de nos cultures, avec tout ce que l'on voudra, la pudeur, par exemple, et qui est donc la tempérance. Comme si donc, du fait de ce développement économique, que nous sommes bien dans l'incapacité en tant que citoyens, je dirais, de contrôler. Nous avons dans le meilleur des cas, comme nous le voyons dans le champ politique, puisqu'on parle de pacte de responsabilité, à pactiser avec elle. On n'est pas dans la lutte sociale, hein, on est dans la façon de pactiser. Et donc, pour en venir plus précisément à ce que l'écriture psychanalytique de la psychanalyse est susceptible de venir là signaler comme ayant pris la place de cette instance une, jusque-là référent directeur, cette place occupée par le sujet capitaliste. Le sujet capitaliste. Un sujet. Ce sujet dont la psychanalyse, je dirais, est dûment informée en tant que il est mis en place par le fantasme. Et pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiers avec ces données, le fantasme étant constitué, tenant pour chacun d'entre nous à la perte de l'objet supposé originaire de son désir. Dans la conception freudienne, c'est bien entendu la mère. Toute la conception freudienne est organisée sur le principe de ceci, c'est que le sujet ne doit son existence que de la perte de l'objet supposé pouvoir assurer son entière satisfaction, autrement dit venir combler ce trou que j'évoquais tout à l'heure. Et que notre condition était donc liée à cette perte de l'objet supposé originaire du désir, laissant, je dirais, comme trace celle d'un sujet qui ne doit son existence justement qu'à la fente laissée par cette disparition elle-même. C'est-à-dire, sujet qui ne doit pas son existence à quelque écriture, à quelque un qui viendrait là lui donner corps, mais qui ne doit à son existence aléatoire et incertaine est toujours vécue comme plus ou moins mal fondée, mal assurée, qui ne doit son existence qu'à qu'à la faille ouverte par la perte de cet objet. C'est sur ce terrain que apparaît une tentative dont je crois qu'il est légitime que, pour ceux d'entre vous qui n'en êtes pas familiers, dont il est légitime que je fasse état, car je ne suis pas certain que vous puissiez y avoir accès plus facilement. La tentative faite par Lacan. Partant du symptôme que constitue cette façon de venir inscrire dans ce trou vide, réputé vide, venir y inscrire le 1 du père originel, avec justement le type de conséquence, je dirais, qui en viennent pour nous distraire une brève seconde. Il va y avoir un numéro du Philosophie Magazine consacré à la question « Peut-il y avoir une morale sans Dieu ?» Vaste sujet. Et les rédacteurs ont eu la bonté de venir m'interviewer sur la question. Peut-il y avoir une morale sans Dieu? Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que j'ai pu répondre, c'est que c'est bien grâce à Dieu qu'il n'y a pas de morale. Je suis pas le premier à le dire, hein. C'est saint Paul qui l'a dit le premier. Donc moi aussi j'ai mes références, j'ai mes autorités. Mais il est bien clair que c'est la religion qui nous fait désirer ce qui est interdit, ce qui est hors limite. Il y a un texte assez surprenant de Freud. Ça se trouve en introduction à l'analyse de l'homme au rat. Et où il dit, mais l'inconscient, c'est horrible. L'inconscient, c'est le réservoir de tout ce qu'il y a de mal. Et c'est vrai, puisque l'inconscient, c'est le réservoir de tout ce qu'il a fallu refouler, de tout ce qu'il a fallu retrancher. Et qui donc, non seulement à partir de là, devient objet du désir, mais alimente, je dirais, la pensée flottante, pensée qui ne se contrôle pas, comme ça, le vague ordinaire de la pensée, l'alimente comme ça de bulles, je dirais, dont le caractère répréhensible peut manquer de surprendre celui qui en est le porteur. Enfin, je veux dire, ce genre de pensée stupide ou vaine ou homicide, ou jaloux, ou vindicatif, qui sont susceptibles ainsi de venir parasiter l'âme la plus pure. Et d'autant plus qu'elle est pure, évidemment. C'est bien la souffrance des âmes pures. Et je passe, bien entendu, là, je plaisante évidemment sur l'incidence purement morale, mais il est bien évident que les conséquences économiques et marchandes de cette situation sont bien évidemment une tentative de répondre et de corriger cette insatisfaction fondatrice que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce que nous voyons admirablement aujourd'hui s'illustrer avec le fait que cette insatisfaction fondatrice va aller jusqu'à éliminer la différence des sexes dans la mesure où cette différence des sexes s'avère plus facilement source d'ennui que de réponse aux bénéfices espérés. Donc, vous faire état, comme je le pourrais, très rapidement, et je ne le fais que parce que c'est une tentative de rendre compte de la possibilité de radicalement modifier notre relation au pouvoir par une inscription nouvelle, différente, et qui consiste entre autres à venir dégager ce trou de cette instance une que j'évoquais au départ. Les psychanalystes, le rapport au pouvoir est permanent. Et je dirais que de façon bizarre, dans le privé de leur exercice ou bien dans le public de leurs associations, ils ont affaire à ça tout le temps. C'est étrange. Dans le privé de leur exercice, puisque il va apparaître de façon tellement surprenante qu'un honorable citoyen est commandé par une écriture qu'il habite et qu'il ne maîtrise absolument pas, et que c'est cependant cette écriture, celle qui constitue son inconscient, le texte de son inconscient, qui le régit malgré lui, que c'est ce texte qui le commande, y compris bien sûr avec toutes ces vilenies que j'évoquais il y a un instant. Et que le pouvoir exercé par ce texte est en conflit avec un autre, chez le même sujet. C'est celui justement de son rapport à l'idéal, à cet un qui pour lui, qu'il voudrait, serait-il laïque, ça n'a aucune importance, il n'y sera pas moins exposé, qu'il voudrait inscrire pour lui servir de support, de référent dans ce trou du réel et que vient actualiser le transfert. Et donc cette sorte de dynamique, de conflit entre les expressions de cet inconscient ainsi écrit, je passe à cette occasion sur ce qui est notre fascination par tout ce qui est écrit, pas la peine de reprendre ça. Et puis donc, la façon de se débrouiller avec cette instance une qui semble ne pas se satisfaire des vœux inconscients. La fin de l'histoire, c'est à chacun de l'écrire. Je sais pas. On peut lire les observations de Freud pour savoir comment avec lui ça se terminait. Pas toujours très bien. Pas toujours très bien, et c'est assurément l'un des problèmes qui sont à la source de ce que l'on pourrait appeler l'échec social de la psychanalyse. L'échec social, car il est clair que c'est un événement. Un événement, c'est-à-dire ce qui est susceptible de venir casser le cours de l'histoire. Et que ça n'a pas fonctionné comme tel. Changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire celui de nos rapports, celui de nos relations. Et il est bien évident que ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? Et pourquoi il est fort probable que la psychanalyse passera aux oubliettes? Eh bien, c'est justement l'une des leçons, la leçon dernière de la psychanalyse, c'est que ce trou est irréductiblement, sauf pathologie occasionnelle, vide. Autrement dit, il n'y a pas de maître suprême, il n'y a pas de maître dernier pour venir guider nos conduites, et les réguler, et les justifier. C'est bien de là que nous partons, c'est-à-dire le fait qu'en tant qu'animal humain, nous n'avons pas de savoir inné venant guider nos conduites. Nous ne trouvons pas cela, chacun ne trouve pas cela en stock chez lui-même. Il va falloir construire tout cela, plus ou moins bien. Et il est évident que l'échec à ce jour de la psychanalyse, c'est qu'elle ne vient pas dire qu'elle serait justement la bonne autorité, le bon père, celui-là, ou la bonne mère, comme on voudra, peu importe, et qui viendrait nous assurer un rapport plus satisfaisant avec nous-mêmes et avec nos semblables, puisque c'est bien de ce côté-là que ça cloche. Bon. Donc il y a l'expérience de la cure, pour le psychanalyste dans son étude du pouvoir, et puis il y a ce que l'on s'amuse éventuellement à lire dans l'histoire du mouvement psychanalytique, c'est-à-dire il ne peut pas se produire, je dirais, de regroupement d'analystes entre eux qui ont besoin de pouvoir échanger. Ce côté-là, ils sont normaux. Eh bien, ils ne peuvent pas se rassembler sans qu'aussitôt ne surgissent des conflits de maîtrise. Qui dit vrai? Qui dit juste? Qui a raison? Qui est le plus fort? Qui va imposer, je dirais, sa façon de... Autrement dit, ce à quoi Lacan, justement, a tenté de remédier par une procédure qu'il appelait la procédure de la passe, c'est-à-dire d'amener, justement, les analysants désireux de devenir analystes, de venir à cet égard témoigner du fait qu'ils avaient et s'étaient affrontés à ceci que Freud appelait la liquidation du transfert. C'est-à-dire rien d'autre que le fait de constater que là où nous attendons un maître, il n'y a rien que notre attente et notre soumission préliminaire, préalable à tout ce qui pourra venir se substituer à ce défaut. Nous sommes vulnérables. À cet égard, nous sommes des animaux fragiles. Et donc, sa tentative à lui, dans un effort dernier, qui n'est pas, en général, prise en compte par les élèves. Sa tentative à lui de montrer que nous pouvons tenir un rapport sûrement plus satisfaisant avec nous-mêmes et nos semblables dans une écriture, un type d'écriture, c'est ce qu'il a forgé à propos de, avec cette bizarrerie que constitue le nœud borroméen. Je ne vais pas développer ça, bien entendu. Et que il se demandait lui-même, est-ce que c'est possible? Mais qu'en tout cas, cela constituait un nouvel événement. Et dont j'espère avoir au moins fait entendre le fait que la question qui nous concerne, c'est pas nous qui l'abordons, c'est elle qui nous prend, qui nous absorbe, c'est elle qui nous trimballe, c'est-à-dire cette question du pouvoir, de façon non préparée. Elle vient trouver là une approche. Complètement farfelu, parce que complètement neuf, complètement original, complètement en rupture avec ce qui a pu se faire, et qui, dans la mesure où elle n'a pas, je dirais, pour référent quelque autorité qui serait autre que celui simplement de l'écriture de Céron, eh bien, a peu de chance, sûrement, de rencontrer quelques... Je ne veux pas parler de popularité, bien sûr, mais de rencontrer un peu d'intérêt qui dépasse le cercle des analystes. Puisque j'ai encore quelques minutes, 3 minutes, si vous le voulez. Je pourrais vous faire remarquer ceci, conclure, sortir de cet aspect qui peut paraître futuriste de la question, pour la banalité de notre quotidien. Puisque le titre de nos soirées, c'est « Quel pouvoir voulons-nous ?» Titre qui est déjà audacieux. Je ne sais pas quel pouvoir serait imposé, c'est quel pouvoir serions en mesure de choisir. Si l'on se pose la question de aujourd'hui, d'où vient le message, qu'est-ce qui fait message pour un homme politique, pour un leader politique, d'où lui vient le message qu'il va reprendre au titre d'un programme ou dont il va tirer les conclusions pour en faire le programme qu'il va proposer à ses électeurs. D'où lui vient ce message? Parce que l'homme politique, en général, il n'invente pas son propos. Il faut qu'il soit branché. Alors, on va dire, bien évidemment, que ce message, à partir duquel cette masse plus ou moins informe, faite d'éléments intuitifs, d'une multitude de sondages, d'enquêtes, etc., il va lui donner corps et va lui donner voix à cette masse informe de vœux, plus ou moins bien ou plus ou moins mal exprimés, éventuellement contradictoires, ça n'a pas d'importance, etc. Et que c'est donc de là qu'il reçoit en bon démocrate son message, celui qu'il reprend donc sous la forme de son propos. En général, ce message lui vient dans notre fonctionnement d'une classe sociale et dont il aura intérêt, pour le rendre acceptable, à le mettre au compte de ce qui serait un intérêt collectif, autrement dit national, autrement dit, le vœu de cette classe sociale serait en même temps celui qui serait conforme à l'intérêt national. Ça, c'est le cas, je dirais, au corps ordinaire. Le problème, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien si ces vœux sont bien ceux de classe sociale aisément distinguable, et l'autrement non plus la difficulté à les ordonner, je dirais, d'une manière qui permette que leur soit retourné un discours cohérent. Je pense qu'on est facilement sensible à ce qui est la faiblesse de l'adresse aujourd'hui faite par nos hommes politiques. Parce que la question est bien la suivante. Est-ce que ceux qui émettent ces messages savent bien aujourd'hui ce qu'ils veulent ? On va répondre, évidemment, bah oui, bien sûr. Les valeurs classiques, un emploi, le bien-être, l'amélioration, le sort des enfants, l'école, tout ce qui est normal. Et cependant, ça ne semble plus fonctionner de façon aussi, je dirais, traditionnelle. Et avec la surprise de voir que des voix, des messages populaires peuvent prendre, je dirais, des aspects nationalistes, comme dans d'autres circonstances, ça c'est déjà vu, bien sûr. Bon, je ne veux pas développer tout cela, mais je veux simplement souligner que la difficulté, me semble-t-il, aujourd'hui, spécifique du rapport au pouvoir, concerne d'abord ce que semble l'impuissance relative du politique à contrôler ce qui est dominant, ce qui fait autorité, c'est-à-dire les forces économiques. Et que du même coup, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Si ce que je raconte est exact, j'espère que Marcel Gaucher voudra là-dessus nous donner ses remarques, ses réflexions. Si ce que je raconte est exact, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux parce que c'est le genre de situation à proprement parler de crise, ce qu'on appelle une crise, pas seulement, bon, c'est pas seulement le chômage qui en est la traduction. Celui d'une crise des exigences, je dirais, propres aux couches sociales dans le fonctionnement d'une démocratie, et dont, du même coup, comme toute crise, on espère que la fièvre retombera, on espère, mais on ne peut jamais évidemment en être sûr. Voilà, j'ai fait, je crois, une longue excursion, peut-être un peu baroque, je l'endosse. Et je vous serais reconnaissant si vous voulez bien nous apporter vos remarques.
Une première remarque sur ce sur quoi vous concluiez à propos de cette impuissance des pouvoirs d'aujourd'hui, qui est une impuissance d'un genre très particulier, puisque c'est une impuissance au fond revendiquée. C'est cela le débat de maintenant dans nos sociétés. Si le pouvoir, les pouvoirs politiques, tels que classiquement on les conçoit, revendiquent le contrôle ou la maîtrise du processus économique, celui-ci ne fonctionnera pas bien. Il faut donc être que le pouvoir soit impuissant face à l'économie pour que la puissance de l'économie nous apporte ses bénéfices. C'est une espèce de pacte avec le diable.
De non-agression.
C'est plus que de non-agression. C'est une concession. Le pouvoir politique est sommé de s'en remettre à une puissance, je ne crois pas qu'il faille l'appeler un pouvoir, je vais y revenir, qui est supposé capable d'apporter à la population des bienfaits que par lui-même il est incapable de lui procurer. C'est un pacte pour de bon. Pas force, pas de responsabilité.
D'irresponsabilité.
Voilà, le choix des mots est assez important.
C'est pas de d'irresponsabilité.
Et cela, ça demande effectivement qu'on y réfléchisse. Nous ne sommes plus, autrement dit, c'est important, c'est très important par rapport au malheur que vous évoquiez en terminant, dans la situation de revendication d'un pouvoir qui aurait la maîtrise complète de la vie collective. Au contraire, nous sommes devant un pouvoir qui est sommé pour bien fonctionner de se limiter lui-même pour que la puissance de l'illimitation qui est celle du système économique fonctionne véritablement. Il n'est plus qu'une entrave. Et je crois que c'est un changement très important. De ce que vous avez dit, je souligne un trait qui est vraiment ce qui spécifie le pouvoir et qui en particulier permet de l'isoler de phénomènes dont on gagne à le distinguer. Le pouvoir ne s'exerce jamais en son nom propre. Quand il s'exerce en son nom propre, d'ailleurs, il s'effondre. Il ne tient pas ou est engagé dans une fuite en avant autodestructrice qui le promet à une annihilation rapide. Le pouvoir, c'est ce qui parvient à capter le crédit collectif au nom d'une référence qui lui est supérieure, de quelque nature qu'elle soit. La plus claire, vous y avez fait longuement allusion, c'est évidemment celle de la religion. Nous ne sommes plus dans ce système de référence, dans nos sociétés d'Occident en tout cas. Mais c'est toujours au nom de principes qui lui sont supérieurs que le pouvoir s'exerce. Le pouvoir, il est délégué. Et dans nos sociétés, il est doublement ou triplement délégué. Il est délégué par les citoyens qui le forment, par le vote. Il est délégué dans la mesure où il accepte de fonctionner dans le respect d'une norme plus fondamentale que lui, sur laquelle il s'interdit d'avoir prise, les droits, ce qu'on appelle les droits fondamentaux, une expression très significative, qui sont au-delà de lui et dont il est chargé non seulement de de respecter les interdits, mais qui plus est, de proposer une réalisation plus complète. Et puis, enfin, il est délégué dans la mesure où il se veut l'artisan d'une œuvre collective, donc il est le chef d'orchestre, en quelque sorte. Il est le garant d'un avenir meilleur, ce qui, dans notre actualité, s'exprime sous une forme, il est vrai, très réduite, mais très significative, qui est le taux de croissance. Un pouvoir qui n'en est qu'à 0,1% par an, c'est impossible. Le symbole, c'est... nous avons même une espèce de mesure de cette attente envers le futur dont le pouvoir est le garant. C'est le 1% de croissance. En dessous, là, on ne peut pas. Ça n'est plus crédible. C'est assez curieux d'arriver à symboliser dans un chiffre une dimension qui est véritablement constituante, puisque c'est celle de la délégation de l'avenir dont le pouvoir est l'opérateur. Donc ça, c'est un trait, je crois, absolument distinctif et que nous pouvons retrouver partout dans la vie sociale et qui est ce qui donne le vrai sens à cette relation que vous avez pointée en commençant entre pouvoir et savoir. Je crois que cette notion de savoir est trop limitative, trop étroite. C'est bien plus étendu, en fait. C'est tout ce qui peut faire référence à une supériorité qui, pour nous, désormais, est intra-humaine. Encore une fois, tout était simple, tout allait bien quand on avait une référence transcendante, divine, surnaturelle, ancestrale. Donc, il fallait des augures pour témoigner. Il n'y a plus rien de tel, mais ce système de la référence supérieure demeure. Et c'est ce qui distingue absolument le fait du pouvoir dans la communauté humaine et qui en fait un objet de croyance. Il est au service de quelque chose qui le dépasse. Et, si j'ose dire, le grand pouvoir est celui qui a le plus grand pouvoir d'évoquer quelque chose qui est au-delà de lui. C'est ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est cette propriété tout à fait particulière que nous observons dans la vie sociale, qui est la capacité de certains individus, dans des registres extrêmement différents, qui peuvent aller du terrain de football à la science et à la politique, d'évoquer dans leur personne, par une alchimie que je n'ai jamais vue bien décrite, on la constate, mais l'analyse du phénomène est très mystérieuse, d'évoquer cette supériorité d'une référence qui n'est pas nécessairement, encore une fois, de l'ordre du savoir au sens strict, qui va puiser dans des sources quelquefois plus profondes et très opaques, en fait. C'est cela qui fait pouvoir, cette capacité thaumaturgique d'évoquer quelque chose qui est au-delà de celui qui est en position de commander, ou d'indiquer la direction, ou de marquer la voie dans laquelle il convient de s'engager et qui trouvera à ce moment-là des gens pour le suivre. Et je crois qu'il faut bien garder en tête cette distinction, cette spécification du pouvoir pour s'y retrouver dans le trouble actuel. Je reprends une chose dont vous avez parlé qui me trouble à propos de la psychanalyse. Peut-on raisonnablement dire que l'inconscient se manifeste comme un pouvoir pour celui qui en subit la pression dans le cours de son existence, dans les déterminations qui pèsent, qui l'enferme dans des cadres préétablis de sa conduite ou de sa pensée? Je ne crois pas. Je crois que là, on est on a face à un autre phénomène. J'en dirais autant dans la vie sociale, cette fois, du fameux capitalisme, une notion très dangereuse à manier, et dont je tendrais à dire qu'elle serait à écarter pour refaire place à un examen plus matter of fact des données qui composent ce fameux capitalisme. Je crois que tant que nous en resterons à cette notion qui relève un peu de la sorcellerie, nos chances de venir à bout de ce qui s'y manifeste sont très limitées. Nous croyons saisir un bloc là où il y a en fait une coalescence d'éléments qui sont assez disparates, dont le désir humain d'un genre très particulier qui trouve sa satisfaction dans cet accroissement de richesse qui est en train de devenir le substitut à tout de tous les désirs humains, y compris le désir sexuel, ce qui n'est pas une petite performance. C'est-à-dire donc là quelque chose qui mérite qu'on y réfléchisse. Nous ne sommes pas là devant du pouvoir non plus. Précisément parce que le capitalisme, disons, l'esprit d'entreprise et l'organisation de la production en vue d'un accroissement de la production de richesse, pour prendre une définition un peu plus opérationnelle, ne relève absolument pas de cet exercice d'une référence supérieure, d'une valeur comme celle qui consiste dans la mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes ou de la réalisation d'un avenir meilleur. On est là tout à fait dans des choses prosaïques d'un autre ordre, et on peut assez aisément aller chercher les concepts qui permettent de mieux cerner ce dont on a à faire. L'univers est fait de force. Si l'on revient à la perception la plus élémentaire, à la phénoménologie primordiale de l'expérience que nous avons de la réalité, c'est un point qui est bien identifié depuis maintenant un grand siècle par Nietzsche. L'expérience primordiale de la réalité, c'est l'expérience de la force et du champ de force. Dans ce champ de force, les humains ont une place très particulière. Et c'est le second concept que Nietzsche introduit là, c'est la puissance. La puissance, c'est la capacité de coordonner des forces à ses propres fins. Dans la nature, dans la réalité, elles s'exercent de manière aveugle, anarchique, elles se combattent, elles se complètent, nul n'en est maître. Les humains sont ceux qui, c'est une différence extrêmement importante, effectivement, qui sépare le règne humain du règne animal. Les humains sont ceux qui savent utiliser les forces à leur propre dessein. Ça s'appelle la puissance. Et à coup sûr, nous avons affaire, dans le registre de l'inconscient, à quelque chose comme une puissance, qui est une puissance d'un genre très particulier, puisqu'elle est celle qui met précisément en échec notre capacité de diriger les forces que nous possédons. C'est celle qui s'impose à nous. C'est une puissance, parce qu'elle est subjective. Nous subissons des forces. Nous pouvons être écrasés par un projectile balistique que constitue dans la rue une voiture. Mais là, nous sommes dans le registre spécifiquement humain, quand des forces s'imposent à nous du dedans, qui sont une puissance dans la mesure où elles signifient ce que nous sommes singulièrement, l'expérience qui nous a faite, et qui nous contraint. Et puis, il y a les puissances que nous manions. Les puissances que nous manions, ce sont celles qui, aujourd'hui, ont pris une forme qui fonctionne de conserve avec le capitalisme, avec ce que nous appelons communément capitalisme, mais qui a une grande indépendance par rapport à lui, en réalité, qui est la technique. La technique, c'est proprement le maniement de la puissance, le service du maniement de la puissance. Le pouvoir, c'est quelque chose de tout à fait autre, qui est précisément la capacité d'ordonner collectivement l'ensemble de ces puissances qui sont à l'œuvre dans une société, les petites, les grandes, de les ordonner en fonction d'un dessein réfléchi, supposé au service du commun, de ce que nous avons en commun. Et cet exercice suppose justement donc la référence supérieure à quelque chose qui justifie qu'on lui obéisse. Nous n'obéissons pas au capitalisme, nous le subissons. Nous inclinons parce que nous avons besoin de travailler, parce que nous sommes contents d'aller au supermarché trouver de quoi nous sustenter, nous habiller. La satisfaction des besoins, mais nous ne lui obéissons pas. Nous obéissons au pouvoir, si dérisoire soit-il. C'est un phénomène toujours très remarquable. Pour moi, l'énigme, ce n'est pas tellement la servitude volontaire, j'y reviendrai la prochaine fois. Fausse énigme, à mon sens, mais l'énigme c'est quotidienne, c'est l'obéissance que nous pratiquons tous, à des degrés différents, selon les fonctions que nous occupons, y compris à des directives que nous trouvons aberrantes, à des gens que nous trouvons grotesques, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser, c'est remarquable, analysons notre rapport d'obéissance quotidien à des choses contre lesquelles nous devrions normalement nous révolter. D'ailleurs, nous nous révoltons, mais pour nous révolter, nous allons au local syndical pour faire une pétition contre le patron, le directeur. Mais nous obéissons quand même. Nous obéissons parce que nous en attendons quelque chose. C'est cette attente-là qu'il faut comprendre dans le pouvoir et qui donne tout à fait son sens à la formule sur laquelle nous nous étions accordés dans ces discussions. Quel pouvoir voulons-nous ? Nous avons des raisons de le vouloir, de bonnes raisons, des raisons qui font sens. Et pour nous frayer un chemin vers cette perspective, nous devons nous demander justement ce que, au fond, et peut-être là, la psychanalyse a beaucoup à nous dire, ce que nous attendons de ce pouvoir auquel, au fond, nous voudrions obéir à un bon pouvoir, un pouvoir intelligent, qui nous représenterait, qui donnerait un sens à l'existence collective. Qu'est-ce que nous en attendons ? Mais ce que nous en attendons est d'un autre registre que les puissances que nous sommes en mesure de mobiliser ou que les forces devant lesquelles nous nous inclinons. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour nous y retrouver. Voilà.
D'accord. Merci. Merci, hein, c'est fauché. Oui, je suis très, très sensible à la façon dont vous reprenez et resituer ce que je tente d'évoquer. Je me présente devant cette honorable assemblée d'électeurs. Au terme de ce que nous avons esquissé. Qu'est-ce que je vais leur dire?
Vous voyez, c'est difficile d'être candidat.
Moi, je me sens. Enfin, je suis particulièrement sensible au fait que nous aimerions lire un discours politique. Mmh. Est-ce que nous arriverons à l'écrire pour la prochaine fois?
Vous vous souvenez de ce titre qui avait fait date à l'époque de Pierre Legendre, L'amour du censeur. Moi, je qui était en fait une réflexion sur l'amour du pouvoir, puisque bien évidemment, derrière le censeur, la figure qui se cachait était celle du pouvoir. Moi, je ne crois pas vraiment. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'amour du pouvoir. Il reconduisait en fait une idée assez banale du rapport au pouvoir, qui est justement ce rapport magique de soumission. L'esprit de soumission, c'était ça. Je n'y crois pas. Je crois que ça a tout à fait existé. Mais précisément, la conviction de Legendre, c'est que rien ne change réellement. Ça a l'air de changer comme ça, mais on remplace Dieu par les droits de l'homme, et c'est pareil. Je n'en crois rien. Je crois que les choses ont profondément changé, et je crois même que nous sommes dans un moment assez singulier. Ça a tellement changé que nous n'y retrouvons plus nos petits. Nous n'avons même plus nos petits, c'est contre qui protester? Nous ne savons plus contre qui protester. C'est une situation historique tout à fait inédite, parce que jusqu'à présent, il y avait quand même une identification assez claire de la cible de la révolte ou de la révolution. Il n'y en a plus. C'est bien pour... Si l'idée de révolution a disparu, c'est qu'on ne sait plus contre quoi faire la révolution, en fait. Donc, je crois que le véritable sujet, c'est l'attente. On a pu aimer le pouvoir, jadis, pour la promesse qu'il portait. Mais cette époque est révolue. Et cette promesse ancienne est morte. Nous en attendons quelque chose. Et le rapport nouveau qui s'établit dans toutes les sociétés, la nôtre n'étant qu'un exemple un peu caricatural, c'est un rapport de désespoir face à des représentants politiques dont nous ne pensons pas qu'ils ont même la capacité d'incarner un pouvoir quelconque. D'ailleurs, vous pouvez remarquer dans l'actualité l'expression qui revient sous la plume d'innombrables commentateurs, c'est celle d'amateur. En effet, on a l'impression de gens qui ont été tirés au sort dans la rue pour exercer des fonctions dont ils ne savent absolument pas le sens. C'est assez étrange. Ça dit quelque chose. Et nous voudrions autre chose. Nous attendons autre chose. Qu'attendons-nous? Voilà. C'est à nous-mêmes qu'il faut adresser cette question. Et peut-être aux psychanalystes qui doivent avoir quelque chose à dire là-dessus.
D'accord. Oui. Enfin, nous sommes quand même devant ce paradoxe de siècles de rationalité, d'intelligence politique, assurément de bonne volonté.
C'est le pire. Et la bonne volonté y est, mais les résultats n'y sont pas.
Et comment expliquer à un jeune qui est supposé rentrer là-dedans, comment lui expliquer que effectivement, ça ne va pas. Comment le justifier? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et cependant, Dieu sait que Il y a des kilomètres d'efforts qui ont été faits, je parle des volumes, bien sûr. Et alors donc, si je raconte ça, c'est pas pour seulement m'amuser, mais c'est pour dire, mais alors, quelles sont les forces qui sont en jeu pour que finalement nous en soyons toujours au préliminaire? On n'en est toujours pas sorti. On est toujours dans le statu quo hanté. Ça n'a pas bougé.
S'il y a un lieu où la théorie psychanalytique, qui peut se résumer au fond à la persistance de l'infantile dans l'homme, se vérifie, c'est dans le rapport à la politique et au pouvoir, précisément.
Donc nous avons raison de tenter cet effort éducatif.
Mais oui, de cela je ne doute pas.
Vous venez de publier ce livre impressionnant, Transmettre, apprendre. Et où vous notez ce fait que dans notre système scolaire, la transmission est passée de mode, voire même est déconseillée.
Interdite.
Voire interdite.
La formule la plus infamante qu'on puisse employer dans le discours pédagogique d'aujourd'hui pour stigmatiser des pratiques d'un autre âge, c'est une pédagogie transmissive. Là, c'est bien.
C'est comme les maladies.
Oui, en quelque sorte.
Oui, maladie pédagogiquement transmissible. Mais. Eh bien, voilà qui est assurément un événement. C'est un événement.
À n'en pas douter.
Un événement couronné de la plus grande réussite capitalistique, puisque le développement du numérique et le fait de jeunes qui, manifestement, rien n'a été transmis.
Les mathématiques,
oui.
Quand même.
Enfin, une partie restreinte.
Oui, très bien.
Une partie utilitaire.
L'algorithmique. Voilà.
L'algorithmique, oui.
C'est pas nul.
Oui.
Ça ne s'invente pas. C'est pas quelque chose qu'on invente tout seul au coin du feu.
Non.
C'est transmis.
Oui. D'autre part, est-ce que nous sommes au clair sur ce que nous transmettons?
Ou sur ce que nous voudrions transmettre?
J'osais même pas dire ça. Sur ce que nous voudrions transmettre. Est-ce que nous sommes au clair là-dessus? Est-ce que le prof, là, derrière son pupitre, dans son bureau, est-ce qu'il sait ce qu'il transmet? Donc, est-ce que ça nous mène pas à, comment dirais-je, en tant que partisans des humanités, est-ce que ça ne nous oblige pas à une réévaluation, je dirais, puisque vous avez cité Nietzsche, il faudrait sans doute un Nietzsche pour ça, de ce que nous leur transmettons. Finalement, s'ils sont comme ça, c'est peut-être bien justement que ça leur a été transmis.
C'est la bonne question que nous devons nous poser,
oui.
Vis-à-vis de nous-mêmes.
D'un autre côté, l'idée de les livrer à ce qui serait un apprentissage naïf, spontané, naturel, etc., c'est de la blague. Ça n'existe pas. Alors, donc on est bien là dans quoi? C'est comme le discours tout à l'heure que je n'arrivais pas à faire à mes électeurs. Qu'est-ce que dire? Comment parler aujourd'hui aux élèves? Ça aussi, ça fait partie de ces questions-là, mais même.
C'est parce que, précisément, on est là, dans, non pas dans le pouvoir, mais dans l'orbite du pouvoir. Ce qui se passe dans des institutions pédagogiques, quelles qu'elles soient, au sens le plus large du terme, c'est justement ce que nous, spontanément, notre société ne veut pas voir, c'est le... ce qu'elle estime devoir transmettre. C'est ce que... Ouais. Devant quoi nous restons quoi.
Ouais. Donc, comme par hasard, il n'y a pas de temps pour vos questions. donc nous disons à la prochaine et ultime soirée concernant les rencontres de cette année.